Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Commissaires des Courses. Aujourd'hui, dans le cadre de nos émissions d'intersaison, nous allons revenir sur le World Tour et tenter de déterminer, si nous n'assistons pas à une sorte de World Tour à deux vitesses, aussi bien à travers les forces de leurs équipes, des équipes respectives, et des transferts qui ont été opérés durant l'intersaison. Voilà, c'était une impression qui avait été assez prégnante dans le milieu des suiveurs, notamment sur le forum Vélo Club du Net, où beaucoup de gens c'était un peu plein, en effet, de bien la domination de 3, 4, voire 5 équipes maximum. Quelque chose, un phénomène vraiment qui était très prégnant en début de saison, peut-être un peu atténué au fur et à mesure de l'année, mais vraiment on avait un peu l'impression de revoir un peu toujours les mêmes équipes, notamment par exemple la Quick-Step sur les classiques, mais aussi avec l'apparition de la Lotto Jumbo comme Armada maintenant sur les grands tours. Voilà, l'impression de voir seulement quelques équipes dominer le calendrier. Et ce que je voulais voir avec nos commissaires aujourd'hui, c'est tenter de déterminer si c'est une simple impression de surface ou s'il s'agit d'une tendance de fond assez lourde. Voilà, pour tenter de débroussailler tout ça, on retrouve aujourd'hui Grégory. Mais également Charles.
Salut Max, bonsoir à tous.
Et également Greg.
Salut tout le monde.
Voilà, alors j'ai eu un petit problème de son avec Grégory, j'espère que ce n'était que de mon côté, mais je l'ai entendu vraiment avec un son très très bas. Voilà, alors oui, Quick Step sur les classiques, la team Sky puis Neo sur les grands tours, tout ça, ça sent un peu le réchauffé. Est-ce que c'est vraiment plus qu'une impression, est-ce que dans les faits c'est quelque chose de réel, et est-ce que on va dire avec le marché des transferts qui a eu lieu, qui s'est déroulé là durant l'intersaison, c'est plus qu'une tendance, mais vraiment quelque chose de lourd et de profond qui se cache au sein du World Tour. Alors c'est une vaste question. Voilà, Charles, je voulais un peu avoir ton avis déjà sur ces transferts. Est-ce que ce qu'on a vu là s'opérer durant ces quelques semaines aurait tendance à renforcer ce dont je viens de parler?
Ouais, on a l'impression depuis quelques temps qu'il y a un mouvement de fond, comme tu l'as dit, qui se dégage. C'est-à-dire qu'il y a des super équipes, entre guillemets. Avant, tu l'as très bien expliqué, on avait juste la Sky Ultimineos maintenant sur les grands tours, et puis la Quick-Step qui dominait tout sur les classiques et qui gagnait beaucoup. Mais là, on a l'impression que depuis quelques temps, il y a d'autres structures qui arrivent avec beaucoup d'argent, comme notamment UAE Team Emirates. Et tu parlais du mercato, ils ont fait un mercato assez impressionnant puisqu'ils ont recruté des garçons comme Formolo, comme David de la Cruz, mais aussi ils se sont mis sur le marché des jeunes pépites avec les arrivées de Camillo Ardila, le vainqueur du Giro Espoir, de Brendan McNulty, le très bon 4x4 américain, et de Mikkel Bjerg, le triple champion du monde du chrono chez les U23. Enfin, moi, j'ai cette impression qu'en fait, il y a l'argent qui commence à... Je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, bien au contraire, mais qu'il y a l'argent qui commence à régir un peu tout au sein du World Tour. Et il y a des équipes avec des énormes budgets qui se dégagent. Et on le voit avec UAE, on le voit avec le Team Ineos, la Jumbo-Visma dans une moindre mesure. Et j'ai l'impression que du coup, ces structures vont un peu écraser les autres équipes, comme, je sais pas, Dimension Data, pas Katusha maintenant, mais Israel Cycling Academy ou d'autres vont un peu subvenir, enfin pas subvenir, mais essayer d'exister en tout cas au plus haut niveau.
Greg, est-ce que c'est aussi ton impression, déjà, au vu de ce qui s'est passé l'année dernière?
Oui, enfin, pour rebondir sur ce que disait Charles, il y a deux éléments qui me semblent intéressants, il faudrait qu'on développe. D'abord, le fait qu'il y a des équipes World Tour en difficulté, en vraie difficulté, hein, la Dimension Data, la CCC... il y a eu la Katusha l'année dernière qui était en mort quasiment clinique. Les équipes françaises, alors même, elles ont brillé, elles ont eu des points, notamment grâce aux courses Coupe de France, mais en course World Tour pour AG2R et la Groupama, ça a été compliqué cette année. Alors, pas au niveau de la CCC peut-être et de Katusha, mais ça reste compliqué pour eux. Et on a aussi des équipes, on va dire, de moyenne qui vont perdre leur leader, c'est-à-dire... Dumoulin qui part de Sunweb qui va chez renforcer Jumbo, et Carapaz qui part, donc qui quitte Movistar pour Ineos. Landa qui quitte Movistar pour Bahreïn, il y a beaucoup d'argent. Donc il y a ces deux tendances-là, c'est-à-dire que le bas, c'est compliqué pour eux, les équipes du bas, c'est compliqué pour eux de jouer de la victoire. Et des équipes qui pouvaient jouer à venir cette année ont perdu des leaders et vont renforcer les quelques équipes, les 4-5 équipes qui tracent les premières places. Donc c'est une tendance que je trouve assez forte, un peu inquiétante pour le suspense. Et aussi parce que des équipes en difficulté, c'est potentiellement des équipes qui risquent de disparaître dans les années futures.
Grégory, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui peut se passer aussi dans certaines sociétés occidentales, une augmentation des inégalités?
En ce qui concerne le World Tour, malheureusement, c'est un peu l'argent qui prédomine. Puis on a aussi quelques équipes qui font des paris intéressants, mais très rapidement, il suffit que certains paris soient gagnants et on peut retrouver les coureurs qui ont bien marché dans ces équipes, se retrouver dans les équipes qui payent le mieux, tout simplement, pour avoir un statut de leader complètement assuré dans leurs nouvelles équipes. Donc c'est assez triste, mais c'est un peu comme ça que fonctionne le sport, malheureusement, et puis la société en général. Après, concernant la saison 2020, on a plusieurs... On a un peu plusieurs niveaux d'équipes, on va dire, avec les équipes qui vont très certainement tout dominer, d'autres qui vont essayer d'exister, et enfin celles qui vont essayer juste de survivre. Donc ce sera à suivre. Puis certainement quelques équipes qu'on n'attend pas auront des coureurs qui vont éclore. Donc il faudra voir si elles se feront dépouiller elles aussi l'année suivante.
Oui, alors c'est vrai que chaque équipe a son histoire, hein. Elles sont toutes dans des configurations différentes, mais par exemple, on a eu des équipes comme Astana ou Movistar qui n'étaient pas forcément les plus riches au départ, mais qui avaient pu bénéficier d'un alignement favorable, on va dire, pour leurs coureurs, et qui avaient réussi donc à avoir un palmarès tout à fait honnête, hein, c'était encore le cas pour Movistar cette année, grâce à des coureurs finalement peut-être pas forcément très très chers, hein, je pense notamment à Carapaz. Je ne sais pas si quelqu'un veut enchaîner là-dessus, mais et c'est un peu la même chose aussi pour Astana, on ne voyait pas forcément Fuglsang réaliser une aussi grande année. Il est possible que ces équipes-là aient du mal à assurer leur pérennité à long terme, alors pour des raisons parfois un peu différentes, mais du coup, on les sent moins stables dans le haut du panier qu'une équipe comme la Quick-Step, par exemple. Je ne sais pas si c'est ton avis aussi, Charles.
Pour Astana, après, les choses sont un peu différentes parce que l'équipe, elle existe en fonction de la volonté politique en fait, des gouvernants, comme tout est financé par l'État. Donc, s'il y a un moment, ils coupent un petit peu les fonds, et je crois que ça a été un peu compliqué ces dernières saisons, il y a moins d'argent qui rentre, donc moins de gros coureurs. Mais pour ces équipes comme De Koninck Quick-Step aussi, qui n'est pas forcément l'équipe la plus riche du World Tour, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a un collectif énorme, en fait, et que c'est grâce à ça que ces équipes, enfin, que ces formations arrivent souvent à gagner beaucoup et à être très très performante au très haut niveau, où on voit que les mecs se sacrifient les uns pour les autres, et c'est pas forcément le cas dans certaines autres formations du World Tour, quoi.
Dans un autre style, on peut aussi considérer que Ineos fonctionne un peu comme ça également.
Oui, tout à fait, parce que chez Ineos, bon, on peut critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut d'Ineos, mais quelque chose qui frappe, en tout cas chez les suiveurs, c'est cette capacité des équipiers de luxe, ou des mecs qui seraient capables d'être leaders dans une autre formation, de se muer justement en équipier dévoué à 100% à la cause de leur leader. On n'a jamais vraiment vu un Ineos courir après un autre sur un grand tour depuis l'épisode Froome Wiggins. Donc enfin, ça, c'est quand même à mettre à leur actif, et c'est pas seulement l'argent qui fait ça, c'est qu'il y a une discipline, un état d'esprit, je pense, qui font que ça marche, quoi, et qu'il y a un collectif qui est archi soudé et au-dessus des individualités.
Et aussi des gros salaires. À mon avis, avec un gros salaire, tu acceptes plus facilement les consignes que tu parlais des tactiques incompréhensibles que chez Movistar.
Oui.
C'est vrai que ça peut donner une bonne motivation pour suivre les ordres. Tout à fait. Greg, par rapport à ça, même si on l'a évoqué dans une émission précédente, est-ce que l'empilement, on va dire, des grosses stars comme ça qu'opère également la Jumbo, est-ce que toi, tu penses que la sauce peut prendre de la même façon?
La sauce peut prendre, tout dépend comment ils vont gérer. comment ils vont gérer leur effectif, mais on sent clairement qu'ils sont l'équipe qui peut inquiéter la Ineos et courir à la Ineos. Donc ça aussi c'est une nouveauté, c'est peut-être quelque chose à suivre, on en a déjà parlé, on a fait un podcast spécial là-dessus. C'est vrai que c'est une des choses intéressantes, on peut, voilà, c'est un côté négatif, parce que est-ce qu'il y aura autant de suspense, parce qu'il y a des équipes, on a l'impression qu'elles pourront jamais ou quasiment jamais gagner en World Tour, elles sont toujours les mêmes que l'on voit devant, mais là peut-être qu'on verra un changement dans les grands tours et notamment sur le Tour de France, hein, la course que tout le monde attend le plus. Jumbo-Visma a un effectif capable de bousculer Ineos, voire même de courir à la Ineos.
Alors les mêmes qu'on voit devant, et est-ce que c'est aussi les mêmes qu'on voit toujours derrière? J'ai envie de vous demander, cette année, effectivement, vous aviez évoqué déjà quelques équipes, dont donc la défunte Katusha, qui a traîné un peu sa misère toute l'année, avec, on peut dire, en digne représentant Marcel Kittel, qui a carrément stoppé sa carrière en cours de saison. Est-ce que vous pensez que ça va être belote l'année prochaine? Donc, pas avec la Katusha, mais par exemple une équipe qui a un peu fait... fait triste mine cette saison avec la dimension data, donc qui va devenir NTT l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que ça va être un peu aussi la même chose avec ce genre d'équipe, Grégory Pain?
Il y a quelques risques, hein, parce qu'on n'a pas forcément fait un énorme recrutement. D'ailleurs, on a été chercher quelques coureurs exotiques de type Benjamin Diebold. Je pense pas que ce soit forcément une bonne chose pour le World Tour. Après, des renforts type Andreas Stockbro qui n'ont aucune expérience non plus au niveau World Tour. Donc ça va être je parle pas non plus de la recrue japonaise Shotaro Iribe, qui n'a aucune expérience du tout sur les courses de haut niveau, a déjà plus de 30 ans d'ailleurs. Mais je pense que c'est compliqué pour eux, à voir. On a Michael Valgren qui a été inexistant cette année jusqu'à la fin de saison, où par contre il s'est bien réveillé, donc il a rencontré apparemment des soucis personnels, mais faudra voir. Mais il n'y aura pas beaucoup de têtes d'affiche, et le problème c'est que on risque de se reposer toujours sur les mêmes coureurs, et que ça peut très mal se passer. Du coup, certains vont peut-être finir par être cramés, et quand ils seront cramés, il n'y aura plus grand monde sur qui se reposer. C'est là le problème.
Oui, on a un peu l'impression, enfin, c'est pas qu'une histoire d'argent, hein. Il y a aussi une histoire de direction à donner. Certaines équipes, personnellement, j'ai du mal à lire leur projet, à voir vraiment où elles veulent aller. Charles ?
Ah bah oui, clairement. Enfin, si tu donnes 3 ans de contrat à André Greipel, il y a peu de chances que ça se passe bien, quoi, même si tu as l'argent. Enfin, ça peut être compliqué. J'extrapole, mais enfin. À un moment, il y a aussi des managers qui savent ce qu'ils font et d'autres qui font un petit peu n'importe quoi. Enfin, tu vois, chez Astana, par exemple, ils ont quand même le chic pour trouver des mecs qui vont performer l'année suivante. On pense qu'on vote Patrick Lefebvre. Je sais que c'est un peu dans l'air du temps de le mépriser et de le critiquer. Mais c'est quand même un mec qui est capable d'aller chercher, grâce à ses consultants ou ses recruteurs, je sais pas, des coureurs qui sont pas non plus archi demandés. Enfin, Gaviria, fallait le chercher, Odeck, fallait le chercher, Jakobsen, il y en a qui ont misé sur Alvorsen à la place. Donc, enfin, Steimle, il l'a chopé en milieu de saison. C'était pareil pour le Danois, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui a fait une excellente saison l'an passé, et j'ai la mémoire qui flanche, c'est pas très grave. Mais bref, il réussit des coups. Enfin, il y a des équipes qui réussissent toujours des coups et qui arrivent avec un peu moins d'argent, du coup, à se maintenir à un niveau qui est assez élevé. Et il y en a d'autres qui ont un peu plus d'argent, des fois comme Bahreïn ou comme d'autres, et qui se foirent complètement dans leur recrutement. Et pareil, là, quand tu vois Bahreïn qui chope Woodpool, je pense que le salaire n'est pas non plus donné. Il y a peut-être mieux à faire. Donc, moi, je pense pas que la Bahreïn va faire quelque chose d'exceptionnel, par exemple, l'an prochain, surtout quand il chope Cavendish aussi. Enfin, Cavendish. Faut quand même pas suivre le vélo de trop près pour s'apercevoir qu'il est terminé, malheureusement. Donc, enfin, il y a aussi la question forcément de la jugeote, quoi, entre guillemets, des recruteurs et des managers.
Oui. L'autre chose, du coup, c'est est-ce que cette tendance s'est renforcée selon vous à travers les transferts encore cette année? Vous pensez qu'on va avoir encore, un noyau, un cercle plus fermé encore d'équipes dominatrices pour 2020? Est-ce que c'est ton impression, Greg?
Enfin, un petit peu, quand on voit, j'en ai parlé tout à l'heure, donc la Sunweb qui perd Dumoulin, qui pouvait espérer gagner ou briller sur les grands tours. Là, enfin, côté Sunweb, il y aura plus grand monde. Peut-être Kelderman, mais ça paraît limite.
Il n'a pas été vraiment remplacé. Hein.
Voilà. Movistar qui perd. Alors, on s'est beaucoup moqué de Movistar et de son incapacité à gérer trois coureurs capables de gagner un grand tour. Ça a été objet de moquerie. Bah, maintenant, je pense qu'ils auront beaucoup. Ça sera beaucoup plus calme, du coup. Ouais. Parce que sans Landa, sans Quintana et Hendrik Mas arrive, mais il sort d'une saison un peu discrète finalement. Il y aura beaucoup moins de débats. Et ça sera aussi voilà.
Sans Carapaz,
perdant Carapaz aussi qui avait gagné. Enfin, on perd un vainqueur de Grand Tour quand même. J'ai envie de dire, c'est pas rien. Donc voilà, ces équipes qui pouvaient penser briller, pas facilement, mais qui avaient quasiment une carte assurance Tour X. Pour gagner, pour au moins briller sur un grand tour, là, ça sera peut-être beaucoup moins le cas. Et surtout que ça n'a pas renforcé des concurrents.
En effet. J'ai envie de vous demander, selon vous, si finalement, à quel niveau vous situez les équipes françaises dans ce World Tour, lorsqu'on parle donc lorsqu'on parle d'un marché ou d'un World Tour à deux vitesses, voire trois, où situer les équipes françaises. Charles ?
Je vais commencer par la FDJ, puis je laisserai les gars évoquer AG2R la mondiale, mais malheureusement, la Groupama FDJ, pour moi, elle est maintenant dans le bas du World Tour, et encore, heureusement, il y a Thibaut Pinot qui relève un peu le truc. Mais sinon, on avait des gros espoirs au moment de l'arrivée justement du sponsor Groupama. On parlait d'une grosse augmentation de budget. On s'aperçoit que finalement, il n'en est rien, que ça a été dur de prolonger les cadres qui forcément ont demandé un peu plus d'argent parce qu'ils étaient convoités, mais ça c'est la logique sportive, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais on voit que la FDJ, là, le recrutement, ils ont chopé des jeunes, mais on n'a pas renforcé l'effectif. Si jamais Thibaut Pinot veut remporter le Tour de France l'an prochain, il n'a pas de nouveaux atouts avec lui, de nouveaux coureurs capables de l'aider dans sa tâche. Et quand on voit ce que vous avez très bien expliqué depuis le début, les Armada, Ineos et Jumbo-Visma, imaginons que Thibaut Pinot, par chance, prenne le maillot jaune très tôt durant le Tour de France 2020. Enfin, je vois mal comment ça peut bien se passer, parce qu'il n'y aura que David Godu en montagne qui sera capable de l'épauler. Et puis David Godu, il est encore jeune, il ne peut pas tout faire. Donc si... La Ineos veut renverser la table à un moment avec Bernal, Froome et Thomas, plus les mecs qui sont capables de rouler très très vite pour faire sauter tout le monde. On peut se trouver avec Pinot tout seul et trois Ineos autour de lui, et peut-être deux Jumbo-Visma. Donc, à partir de là, t'as beau être le plus fort de la course, si les mecs t'attaquent à tour de rôle, c'est terminé. Quoi. Donc, c'est dommage, et c'est pour ça que malheureusement, je vais situer, pour conclure, la FDJ très très bas dans cette hiérarchie du World Tour.
C'est une équipe à qui on avait déjà reproché, entre guillemets, reproché, parce qu'elle peut aussi, avec ses moyens, mais un certain manque de profondeur. Hein. C'est vrai que derrière...
Après, c'est pas reproche, on fait ce qu'on peut avec les sponsors qu'on a et l'argent qu'on a, il n'y a pas de souci, mais c'est juste...
C'est vrai que derrière Pinot et Arnaud Démare, on va dire, on sait que c'est un peu difficile pour cette équipe vraiment d'exister. Grégory, si tu veux peut-être évoquer le cas d'AG2R.
Moi déjà, je vais juste revenir un tout petit instant sur Groupama FDJ. Justement, tu viens juste d'évoquer derrière Pinot et Arnaud Démare, mais justement, est-ce qu'Arnaud Démare est encore vraiment leader dans l'équipe Groupama FDJ? On ne sait pas tellement. Est-ce qu'il serait plutôt remplacé par des coureurs d'un autre profil derrière Pinot, comme des Godu, voire la génération qui arrive derrière avec Valentin Madouas notamment, et éventuellement d'autres, mais faudra voir si.
Mais Arnaud Démare, ça reste un homme de coup pour moi, tu vois, ça a jamais été pour moi un mec qui était capable de gagner genre 4-5 étapes du Tour, tu vois, ou claquer 30 victoires par saison. Je pense qu'il continuera il a gagné un Milan San Remo, il regagnera peut-être un jour une étape du Tour, une étape du Giro, mais je l'ai jamais vu vraiment, tu vois, si haut que ça, enfin en tant que sprinter.
Mais après, pour continuer sur AG2R, déjà il y a une caractéristique qui est claire, c'est qu'au sprint il n'y a pas forcément grand chose. Bon, ils ont recruté Vendramé, mais c'est pas un vrai sprinter. Venturini, c'est pas forcément génial au sprint non plus. Mais derrière ça, ils ont des leaders qui n'ont pas forcément connu des saisons pleines de réussite comme Romain Bardet par exemple et Pierre Latour qui a eu une saison compliquée aussi. Donc là, de ce côté-là, il y a moyen de faire mieux et de plus exister l'année prochaine. Après, évidemment, ils sont pas forcément, le collectif est pas extraordinaire pour une équipe World Tour, j'entends. Donc oui, effectivement, les pompes les mettent en deuxième partie de classement du World Tour, mais ils ont quand même des leaders qui peuvent tenir la baraque, sans parler de Nassen, qui lui peut très bien être considéré comme un très gros spécialiste des Flandriennes, et il pourrait très bien en claquer une si tout se passe bien pour lui.
Mmh. C'est aussi ton avis, Greg ?
Oui, c'est ça. Après, c'est une situation compliquée. Financièrement, ils n'ont pas les moyens, justement, de faire venir le gros rouleur qui va être l'équipier solide, qui aurait pu être un équipier solide pour leur leader, ni un gros sprinter, Groupama a déjà démarré et n'en veut peut-être pas forcément. Donc, elles sont dans une position compliquée. Après, il faut voir que dans leur calendrier, la Coupe de France compte aussi beaucoup. Et que voilà, ils ont les coureurs, que ce soit dans l'une ou dans l'autre, capables de briller sur ces courses-là. Et que c'est un peu différent des autres équipes internationales qui ont peut-être un calendrier, une vision du calendrier assez différente. Les sponsors sont là d'abord pour le Tour. Et ils ont aussi la chance d'avoir un calendrier national assez important avec quand même pas mal de courses. Donc leur vision est un peu différente, mais c'est vrai qu'au niveau World Tour, c'est compliqué pour elles de gagner et de briller.
Par contre, juste une petite question justement pour le débat. Est-ce que pour une équipe World Tour française, est-ce qu'on doit viser un peu le classement de la Coupe de France ? Je vois que ça, par exemple en Italie, ça se fait pas du tout. C'est plus pour les équipes pro Conti pour aller chercher la wild card, etc. Est-ce qu'une équipe World Tour doit viser la Coupe de France, une équipe française World Tour ?
C'est vrai que ça peut être sujet à débat.
Mais c'est aussi la chance, pour moi, c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup d'équipes françaises, c'est parce qu'il y a de la Coupe de France et des courses intéressantes en France. Et c'est pour ça qu'on a autant d'équipes aussi, même en Conti Pro, d'un assez bon niveau par rapport aux autres pays. On voit bien que les Conti Pro des autres pays, ça tire un petit peu la langue. Max pourrait nous parler des Conti Pro italiennes.
Oui,
par cœur.
Pour cause, le cas italien est un peu particulier, parce que comme il n'y a plus de World Tour en Italie, il ne reste plus que des Conti Pro pour viser la Coupe d'Italie, de toute façon. Donc la question ne se pose même plus là-bas. Après, je pense qu'effectivement, s'il y avait eu une World Tour italienne encore en activité, elle aurait quand même effectivement pas négligé la Coupe d'Italie, parce que ça reste une vitrine pour le public. Et voilà. Quand même. Après, il faut voir l'importance de ces courses en France. Elles peuvent encore quand même compter sur des ordinateurs, un réseau encore assez dense. Alors, ça reste une sorte de vivier quand même pour ces pays à ne pas négliger. On va bientôt arriver à la fin de l'émission. Et donc, en guise de conclusion, j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que pour vous, cette tendance va se renforcer dans les années à venir, ou est-ce qu'il s'agit juste d'une coïncidence malheureuse? J'ai comme souvenir, par exemple, le classement du Tour de France 2009, où j'avais un peu l'impression parfois d'assister à, vous savez, une grille de départ de Formule 1, où on avait souvent les mêmes équipes qu'on retrouvait comme ça par deux ou par trois devant. Si je vous donne par exemple le classement 2009 du Tour de France, on avait premier un Astana, devant un Saxo Bank, troisième un Astana, quatrième un Garmin, cinquième un Saxo Bank, ensuite un Astana, après on retrouve encore un Garmin, septième, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est tout le monde arrivait comme ça par grappe. Alors est-ce que c'est une tendance qui va se renforcer? Et pour intervenir sur la dernière remarque, c'est également pour les équipes françaises, c'est comment la Cofidis va se placer là-dedans? C'est un peu la question subsidiaire, on va dire. Alors je crois que, Grégory, tu voulais répondre déjà à la dernière question.
En fait, c'est juste qu'on les a oubliés parce que Cofidis monte bien au World Tour l'année prochaine, et ils ont recruté le, enfin, pas forcément le sprinter le plus rapide nécessairement, mais on va dire le numéro un mondial du sprint, Ilia Viviani. Et forcément, ça va être à suivre. Va falloir voir comment la mayonnaise va prendre. Est-ce qu'il va être aussi efficace et ramener beaucoup de bouquets l'année prochaine? Enfin, est-ce que l'équipe va tourner autour de lui en gros, et comment ça va se passer pour le reste de l'effectif? Est-ce qu'ils vont exister au niveau World Tour? Enfin, voilà. Puis il y a aussi l'arrivée de Guillaume Martin pour les courses punchy, pour les courses par étapes sans contre-la-montre. Et enfin, faudra voir comment ça se passera.
Ça risque de pas être facile, mais on peut imaginer que l'équipe devrait, enfin en tout cas sur le papier, elle ne semble pas inférieure à une équipe comme la CCC ou l'ex Dimension Data par exemple.
Hein. Ah non, et puis c'est plus cohérent d'ailleurs que le projet CCC où on a l'impression que c'est de briques et de broc, qu'on prend des coureurs par-ci par-là. Quoi.
Après, c'est souvent le cas quand une équipe, on va dire, fait son entrée, une nouvelle équipe débute. Hein. Bahreïn Mérida, c'était un peu comme ça aussi au début, ou même l'équipe UAE. Hein, il faut toujours laisser un peu de temps. Après, on l'a vu, certaines équipes, la sauce peut très bien prendre. On a vu la Bora, par exemple, se sortir totalement de la Sagano-dépendance, hein, et réussir à faire une très belle saison, même avec leur coureur vedette un peu en retrait, comme l'année dernière. Alors, tendance lourde ou coïncidence malheureuse, selon toi, Charles?
Ouais, moi, je pense qu'on est sur un vrai mouvement de fond. Je pense même que c'est une bonne chose, d'ailleurs, pour le vélo, qu'on n'ait plus une seule équipe qui domine. Et je pense que, dans quelques années, on aura peut-être 4-5 équipes. Vous preniez l'exemple de la Formule 1, je pense que c'est un parallèle qui est intéressant. Et je vois bien Max susciter les top 10 au final dans 3-4 ans, qu'on retrouve 3-4 mètres d'une équipe, 2-3 d'une autre, etc. Et que ça truste un peu toutes les podiums dans la saison. Alors avec bien sûr la spécificité du vélo, où si t'es très fort dans une équipe, tu peux aussi réussir des coups. Mais ouais, je crois vraiment à ce truc-là, cette tendance de fond de 4-5 super écuries, si je me permets de le dire comme ça, qui monopolisent un peu les bons résultats dans la saison et du coup qui peuvent se permettre, avec beaucoup d'argent, de recruter les carapaces ou les autres très bons coureurs qui émergeraient rapidement, mais dans d'autres plus petites structures du World Tour, pour finir au final chez ces très grosses teams comme Ineos, Jumbo ou UAE Team Emirates.
Oui, Grégory?
Bah, c'est plus ou moins plus ou moins la même chose, donc faudra voir. Après, c'est intéressant que le pouvoir qui avait été mis en place ces dernières années soit contesté. Et d'un autre côté, certaines équipes vont être très très fortes sur le papier, vont essayer de contrôler les courses, mais pour autant, est-ce qu'elles vont les gagner? Ça, c'est encore autre chose. Parce qu'on a toujours l'exemple de la T-Mobile à l'époque, Lance Armstrong, qui essayait de prendre la course en main, mais qui l'a gagné jamais. Donc, faudra voir si tous les collectifs répondent présent.
Et enfin, Greg, le mot de la fin.
Je pense que cette tendance va aussi se renforcer, d'autant plus que, pour prendre un exemple, on voit aussi l'autre tendance, c'est de recruter les très jeunes. Sur le modèle un peu d'Evenpool maintenant, la tendance est de recruter très jeunes. Et c'est là aussi les plus grosses équipes et les plus gros moyens qui se battent pour recruter des coureurs très très tôt. Quand on voit que Carlos Rodriguez, à 18 ans, il signe chez Ineos, alors qu'il aurait pu rester dans une équipe espagnole et progresser tranquillement. Il a le temps, il n'a que 18 ans. Non, c'est directement Ineos qui met le grappin dessus, qui a dû mettre des moyens financiers importants et convaincants.
Il faut rappeler, c'est un jeune junior très bon. Mais il n'écrasait pas tout non plus comme Remco Evenepoel. C'est-à-dire que, a priori, au départ, rien ne justifiait forcément son passage directement des juniors au milieu pro.
Et dans l'équipe, une des équipes leaders du World Tour, c'est-à-dire qu'on aurait pu l'imaginer progresser tranquillement de 3 ans, mais non, de suite, Ineos met la main dessus, met les moyens. Les autres équipes font un petit peu pareil, c'est un petit peu la mode. Et voilà, cette tendance de prendre même les meilleurs jeunes, c'est directement dans souvent les mêmes équipes. Et ça va encore renforcer, je pense, les inégalités pour les équipes moyennes qui pouvaient très bien prendre ces jeunes et leur promettre un calendrier adapté et des, pas des leaders dès maintenant, mais pour leur proposer une progression peut-être un petit peu plus logique.
Bah, c'est ce qu'on voyait, normalement, c'était le travail un peu dévolu aux équipes pro-conti. Charles, pour terminer ?
Ouais, juste pour terminer, je trouve ça super intéressant ce qu'a dit Greg, parce que ça amène une réflexion, ce sera peut-être l'objet d'une autre émission, mais moi je pense qu'on va aller vers une disparition de la catégorie 23, du coup. comme on a de plus en plus de mecs qui passent pro dès après les juniors. Greg a très bien cité Carlos Rodriguez, mais aussi Quinn Simons, ce champion du monde du chrono qui était junior et qui va passer chez Trek directement en World Tour, et Venepoel l'an passé. Et je pense que du coup, la catégorie U23, si on poursuit ce mouvement de fond, n'aura plus lieu d'être très rapidement, malheureusement, parce que du coup, tous les meilleurs espoirs, en fait, seront déjà pros. Le vainqueur du Tour de l'Avenir, cette année, est plus âgé que Tadej Pogačar et Remco Evenepoel. Et moi, j'ai peur pour toutes ces épreuves, aussi comme le Tour de l'Avenir, mais le Baby Giro, la Ronde de l'Isard, enfin, plein de super épreuves pour les espoirs, qui n'auront peut-être plus lieu d'être, parce que quel est l'intérêt de gagner le Tour de l'Avenir si les 10, 15, 20 meilleurs U23, que ce soit sprinter, rouleur ou grimpeur, sont déjà en World Tour. En fait, du coup, tu te retrouves avec des vainqueurs au rabais et c'est pas forcément très très intéressant, même au pire, de voir, je sais pas, 10 mecs qui sont déjà passés pro s'affronter sur une course U23 avec des maillots Ineos, Jumbo, FDJ, etc. quoi. Donc j'ai peur que ça nous amène à faire disparaître en fait cette catégorie et qu'on passe quasiment directement des juniors au World Tour ou à la Conti Pro. Ah,
c'est vrai qu'on voyait parfois une liste de départ au départ d'une certaine course espoir, on avait un peu l'impression de voir un peu tout et n'importe quoi. Hein. C'était une liste à la Prévert. Voilà, des gens comme Bernal ou Sivakov, par exemple, qui se battaient sur le Tour de l'Avenir avec des gens qui, eux, découvraient à peine le monde cyclo-espoir. On se demande un peu ce qu'ils venaient faire là, quoi. Hein, tout simplement. Hein. Ça fait quelques années que cette tendance semble effectivement se renforcer. Et si on arrive à une redéfinition de cette catégorie, je pense qu'on aura la réponse à la question qu'on se posait au départ. Voilà, bah, écoutez, je pense que c'était une bonne façon de conclure l'émission. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles pastilles d'intersaison. D'ici là, donc, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.
Salut tout le monde.